treasure, my little stranger, 'cause I feel you and you feel me. Give me the wave, my little DJ, 'cause you and me are on the way. In EAGJET FM, pour qui je suis honnête, écoute la barre, j'ai la fortune russe.
Je viens de regarder le film En guerre de 2018 de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. En fait, c'est des mecs qui se font virer, enfin qui se font licencier et ils veulent pas perdre leur boulot. Et donc il y a tout le toute la bah, c'est des mecs qui font qui manifent quoi, qui bloquent leur entreprise en fait c'est toujours la même chose quoi. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, puis je vais commenter en même temps. Bon, déjà, les mecs qui parlent entre eux, les syndicats, je trouvais... c'est une analyse qui c'est personnel, c'est subjectif. Mais bon, l'oppressé, donc les travailleurs, les ouvriers, font des raccourcis. Bon, des raccourcis vraiment, des raccourcis logiques, mais depuis un point de vue, quoi. Bon. Ça, c'est pas forcément pour aller dans leur sens. Mais par contre, la politique est un mensonge calibré par l'image publique. Pour leur image aux yeux du public, la politique. Le politicien plutôt. Et la politique en soi aussi. Donc, aux yeux du pouvoir, la trahison ne représente rien. Parce que c'est ce qu'ils disent. Bon, on avait passé un accord. En même temps, un accord, même pour moi, un accord, si le patron il s'en fout de pas le respecter, quoi. Il va avoir, pour les ouvriers, il va avoir de la valeur, mais pour celui qui a le fric, c'est son entreprise, quoi. Donc il faut aussi son entreprise en branle. Mais bon, ça va plus loin que ça. Ça, ce serait que ça encore. Là, je vous dis vraiment à basse échelle, quoi. Donc la tromperie n'est valide qu'aux yeux du trompé, forcément. L'interprétation par ce film, alors quand j'écrivais ça, il restait 30 minutes. Ça dure 1h49. Eh bien, entre le pouvoir qui propose une, voire des créations pour être utilisé. Pour être utilisé. Donc en fait, c'est bien, t'as les mecs qui ont l'idée, qui mettent en route une usine, quoi, qui disent, bon, bah, qu'ont l'idée, quoi, et qui font tout pour la mettre en. Font le nécessaire, en tout cas, pour la mettre en articulation. Et après, donc leur création, on peut appeler ça, on appelle ça comme on veut, leur usine, si tu veux, est créée. Bon. Et afin qu'elle soit utilisée par une masse de présupposés A, c'est-à-dire des ouvriers, quoi. J'essaie d'employer le mot le plus général que j'ai pu trouver, masse de présupposés A. Donc à travailler dans l'usine ou à faire que cette idée, que cette création puisse fonctionner aux yeux du créateur. Bon. Cette masse a un droit au travail. En tout cas, pour chaque État, nous en France, on connaît bien on sait qu'il y a un droit au travail, qui est situé à la première étape, en fait, du travail, quoi. Situé donc à la première étape des lois du marché constitutionnel. Parce que là, j'étais assez content. Il parlait du marché, quoi. Donc là, on arrive au Le Capital de Marx, quoi. On est dedans. En fait, on ne peut pas forcément... les patrons, eux, ils sont dans le marché. Mais l'ouvrier, bah, limite, il s'en fout, quoi. Et il a peut-être raison. Mais il en dépend, mine de rien. Donc, les lois du marché conventionnel répondant notamment aux lois des mouvements situés dans le côté invisible et se matérialisant dans la réalité. Car le côté invisible a ici aussi un rôle Extrêmement important. Car si ça va mal, dans ce film, et c'est un exemple, mais bon, qui n'est pas que un exemple, malheureusement, la fermeture d'une usine, ça va avec les lois du marché, qui représentent malgré tout assez bien le côté invisible, dans le sens où, comme on l'a vu avec Hérodote, tu fais un truc de travers, ça t'est rendu de l'autre côté, quoi. Bon. Ça, c'est un peu les lois de la nature, quand même. Bon. Les lois du marché sont inconnues, comme je vous disais juste avant, inconnues des présupposés A, des ouvriers. Enfin, dans l'exemple, hein, j'ai pas envie de caler les gens, de caractériser les gens. C'est juste pour donner des exemples, parce que, imaginez, quoi. J'ai envie de blesser personne, surtout. Et puis, j'ai pas envie de quoi que ce soit à personne. Donc, il est question de deux parties, en fait. Il est question du patron et des ouvriers. Mais la classe dirigeante, elle est bien moindre et elle a plein d'usines. Et si une usine met à mal plein d'autres usines, il faut malheureusement, tu te mets à leur place, tu dis, je comprends, donc t'as qu'à foutre ce... dégager cette usine qui marche pas, et puis mais c'est pareil pour autre chose, quoi. Mais les gens qui se font virer, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, c'est pas si simple que ça, ce que je dis. D'autant qu'elle fait des bénéfices, mais après, c'est mal expliqué. On n'est pas du côté du patron, en fait, dans ce film. On est du côté des ouvriers. Et en fait, les trucs que les ouvriers ne comprennent pas, c'est qu'il y a les lois du marché qui sont inhérentes à tout. C'est l'évolution du temps, d'autant plus encore maintenant, encore plus avec la technologie qui vient... Mais déjà, avec Marx, c'était le cas. Mais là, ça allait peut-être même encore plus vite à son époque. Parce que c'était la découverte... Bon, non, peut-être pas. Peut-être pas plus vite, non. Mais bon, ça allait vite, en tout cas. Mais j'ai trouvé un exemple. Qui n'a pas forcément à voir, en tout cas. Bon, il y a le vendeur. C'est un vendeur et un acheteur. Donc le vendeur supposé, le vendeur supposé vient avec des BD avec des cotes validées par un livre référence, un bon livre qui fait pour ça, quoi. Donc il pense que leur valeur dépasse les 100 euros. Il en a 5 ou 6, je vais chez le marchand et il va m'acheter ça 500 balles, j'ai 500 balles dans la poche, génial. Mais l'acheteur lui dit. Donc, il y a de la boutique, quoi. Il dit, c'est vrai, c'est à Val ce prix-là, mais vos BD n'ont pas la même référence, parce que vous n'avez peut-être pas regardé la BD, vous avez dû regarder que le titre. Et en fait, l'année, c'est même pas la même, la référence n'est pas la même, et en plus, elles sont en mauvais état. Donc, les cotes, elles sont valables pour le livre qui est en bon état, et puis avec les bonnes références. Bon, ça va de soi, en même temps. Donc, je peux éventuellement vous les acheter 1 euro, si vous désirez, ou alors ne pas vous les acheter du tout. Et en fait, il ne va pas les acheter parce qu'elles sont en mauvais état. Et donc là, c'est un peu la même chose entre le vendeur qui va voir l'acheteur et dire « Ouais, j'ai regardé les cotes !» Et il veut... Bon, là, le mec, des fois, il va comprendre, ou comme l'ouvrier, le manifestant, le gars qui fait... qui veut pas que son usine ferme, il va dire « Ah ouais, ok, je comprends. » Mais il y en a qui ne comprennent pas, qui se forcent à pas comprendre, qui sont butés. Ah ouais, mais allez, c'est pas les bonnes cotes, mais c'est le même titre qui va trouver des combines bizarres. Un peu con, quoi. Et dans le film, c'est un peu ça, des fautes, des fois, qui est mise en jeu. Mais il y a des bons arguments aussi qui sont soulevés par l'interprétation de Vincent Lindon. Et c'est vrai, vous êtes bien, mais les mecs, ils ont bossé, quoi. C'est les créateurs de l'entreprise. Ils ont créé. Est-ce que, justement, j'ai eu l'idée de faire cette émission, d'écrire ça. Quand je me suis dit, mais les mecs qui bossent dans l'usine, ils sont, à mon avis, pas capables de créer une usine. Donc, tous les risques qu'il y a à prendre, donc je ne vous parle pas des patrons qui sont arrivés après, mais le créateur, quoi. C'est lui, je parle, il a pris des risques, il n'est pas parti, peut-être qu'il est parti avec une cuillère en or dans la bouche, je ne sais pas, mais sans aller jusque-là. Il faut quand même... On va parler... Là, c'est une grosse entreprise, mais plutôt des petites et moyennes entreprises, PME. Là, les mecs, il faut qu'ils en aient dans le calbut quand même. Faut monter l'entreprise. Même Leclerc, tu vois, à l'époque, au 19e ou je sais pas, au 20e, fallait au début, j'avais regardé une émission, fallait y aller quoi. Ici, ouais, par contre, là, lui, il était chaud de son coup, peut-être. Mais bon, ça change pas les choses quoi. Il y en a qui sont bons, qui créent pour créer des choses et qui marchent ou qui marchent pas. Et il y en a qui sont pas bons, qui sont bons pour travailler dedans seulement. Mais après, ces personnes qui travaillent dedans seulement sont bonnes à d'autres choses. Moi, et c'est pour ça aussi que je disais hier, c'est que chacun est là pour quelque chose. Donc, on va travailler à Leclerc, mais à côté de ça, on va réussir, par exemple, à donner le sourire à tout le monde, quoi. Tu vois, à lire, enfin, exemple, mais à donner le sourire aux gens. Qui vont nous permettre d'avancer, enfin, tu vois, c'est des exemples ce que je vous donne. Et donc, la révolution. La révolution, toujours, selon moi, ne mène à rien. Parce qu'à la fin du film, bah, Vincent Lindon, il s'immole. Parce qu'il se dit, toi, à coup, alors tu parce qu'ils y vont pas de main morte, les mecs, entre. Ouais, à cause de toi, on aurait pu avoir 40 000 euros de prime pour se faire virer, enfin, de licenciement, et puis en fait, on a que dalle. Ouais, alors c'est ta faute, c'est ta faute. Et parce que c'est lui qui mène tout au début, quoi, tout le long, et bah, il finit par s'immole, quoi. Vous comprenez rien, quoi. Moi, j'ai fait ça pour tout le monde et à la fin, tout le monde m'en veut parce que c'est moi qui ai pris les décisions, quoi. En gros, vous m'avez suivi. Et je tue. Mais ça c'est une bonne fin. C'est tragique dans le film. Ça va bien avec le film, quoi. Mais la révolution, selon moi, ne mène à rien. Mais, parce que, on le dit. Enfin, c'est toujours le pouvoir qui. Tu peux pas foutre en l'air le pouvoir, quoi. C'est pas possible. Pas comme ça. Et je sais même pas si c'est possible. Et si c'est pas comme ça, je sais pas comment c'est. Bah, si je vous le dis tout le temps, c'est se poser des questions. Mais ça mène pas à ça, je pense pas. Ça mène peut-être à un confort d'être bien sûr bien avec soi. Mais. Parce qu'en fait, j'ai écrit, il y a tellement de différences entre chacun des présupposés. Donc là, dans l'exemple des ouvriers, des présupposés A, que c'est pas possible. On est l'humanité est comme ça. Chacun a un rôle, mais le rôle c'est pas de se soulever forcément. Ils font de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, je me suis même dit en regardant le film, oh ouais, alors ça se trouve, ils vont leur dire, ouais, ben ok, ben, vous allez continuer à travailler, on va relancer le truc, l'entreprise. Et puis pour les calmer. Puis au bout d'un an ou deux, bah bam, ils ferment. Tu vois? Parce que si ça ne représente pas grand-chose, enfin, je sais pas, au niveau de l'argent, des milliers d'euros, mais pour eux, ça ne représente peut-être pas grand-chose, quoi. Mais bon, ils ferment leur gueule et après, on ferme, quoi. Et après, il y a la politique, comme je vous disais, qui a un rôle très. Mais même à leur niveau, même les patrons, quoi. La politique, c'est donner un. Oh ouais, tu vois, il y a la politique française qui est jouée dedans. Ouais, on s'en occupe, ouais, le chef de l'État va tout faire pour. Et en fait, mais tu sais pas ce qu'ils font, on sait pas non plus. Mais en fait, ils font rien, je vous le dis, moi. Ils font rien, c'est juste pour devant les micros dire ouais, il est mignon, il est bien le président, il est bien ce mec-là. Ouais, mais ils font rien. Ils font un sourire devant les gars qui se plaignent, mais rien se passe. Et ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que c'est pas leur rôle et c'est pas. Ils en ont rien à foutre aussi, quoi. Politique, bah ouais, ils font des trucs, mais. Ils font pas ce qu'ils disent, quoi. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Parce que moi, je fais rien. Tu vois? C'est ça, la politique. Bon, je sais pas, je caricature à fond. Hein. Je fais des gros raccourcis de la mort, mais bon. Donc, les pouvoirs et les devenirs, que j'ai beaucoup parlé, dont j'ai beaucoup parlé dans les émissions précédentes, répondent. Les pouvoirs et les devenirs répondent dans le temps à ce qui nous guette.
The toothpaste.
Et maintenant, on va parler avec un étudiant en histoire, en licence. Je l'ai croisé.
Donc en fait, c'est un peu compliqué au 10e, 11e d'aller vraiment parler de l'Empire en Orient, parce qu'il n'est pas encore bien implanté. On a quand même cependant des gros parties de pays arabes qui arrivent à émerger, vraiment. On peut surtout le remarquer avec la présence des Turcs à Jérusalem pour les croisades. Mais donc, pour comprendre tout le monde qu'il y a avant, il faut revenir au début du 10e siècle.
Parlons des croisades, tout ça un petit peu possiblement.
Et donc au début du 10e siècle, en fait, on a la France qui est dans un moment charnière, en fait, parce qu'on va changer de dynastie. On va passer donc des Carolingiens aux Capétiens. C'est un mouvement qui est un peu compliqué à comprendre parce que les Carolingiens, ils perdent beaucoup d'influence. On voit particulièrement la branche des Robertiens, donc les ancêtres des Capétiens.
Alors, je me permets, les Capétiens, les Carolingiens, c'est les Charles.
Charlemagne, ouais, Pépin le Bref. Et les Capétiens, ça va être Philippe Ier, Philippe de Auguste, les Louis VI, Louis VII, Louis IX. Ouais. Et donc, on est à un moment un peu charnière où Hugues Capet, il arrive sur le trône en étant élu. Parce qu'à ce moment-là, les rois, il n'y a pas encore mis en place le système de primauté génitale masculine.
D'accord.
Donc, c'est beaucoup de débats entre les grands du royaume, donc le comte de Bourgogne, le comte d'Aquitaine, enfin des duchés d'Aquitaine, qui vont se réunir avec aussi les ecclésiastiques pour discuter, pour voir quel roi peut être le meilleur sur le trône. Donc, en fait, c'est pour ça que même si les Carolingiens, il y a encore des héritiers, ils sont évincés du trône pour mettre à la place Hugues Capet et les Capétiens. Et donc Hugues Capet, il arrive sur le trône, mais avec un territoire qui est très restreint, parce qu'on pourrait dire la France, c'est quand même énorme. Mais en fait, il faut se dire que ce qui est vraiment sous son influence directe, ça va être Paris et Orléans. Donc ça lui fait à peine 200 km de haut sur 100 km de large,
mais
à peine.
Hugues Capet, c'est qui exactement à l'époque ?
C'est un roi un peu méconnu.
Donc là, c'était pas le fils de l'ancien.
Non, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il est élu. Alors, il est un peu quand même reconnu parce qu'il est duc des Francs, ce qui est en fait le deuxième titre en dessous du roi. En fait,
d'accord.
C'est parce que ses parents et grands-parents ont réussi. En fait, c'est les Robertiens, c'est ceux qui ont réussi. Ils ont quand même été rois à certains moments. On peut penser genre à Eudes. C'est en 920, il me semble, Eudes, qui naît. Ouais. Il est roi en 960.
C'était un peu à la mode anglaise, alors, là, non ?
Ouais, à ce moment-là, c'est pas du tout comme la France, en fait, qui est vraiment connue dans ce qu'on étudie, en fait, où c'est vraiment le fils du roi est roi tout de suite.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu les Capétiens qui vont réussir à mettre ça, parce que c'est à partir de Philippe II Auguste qui va dire, en fait, mon fils, même si je l'aide pas, il va me succéder, donc j'ai pas besoin de faire de démarches ni rien.
Ah oui,
alors
ça.
Que tous les Capétiens, leurs fils, ils sont sacrés à 5-6 ans, en fait, pour dire il est légitime.
Ouais, d'accord.
Donc c'est aussi intéressant de voir là-dessus comment ça a évolué, parce que c'est les Capétiens qui ont agrandi le royaume de France et qui ont réellement construit le premier État français, quoi. Enfin, Okay. La base
c'est ça
de
qui
l'État.
m'intéressait, oui.
Ouais. Donc après, bah, le royaume, il faut quand même l'agrandir parce que c'est vrai que juste avoir Paris et Orléans, c'est pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de rois, Robert de le Pieux, qui vont se battre pour essayer d'obtenir des petits morceaux par-ci par-là, mais c'est très compliqué. Par exemple, il arrive à obtenir un bout de la Bourgogne, ce qui est quand même un gros territoire, mais il va le perdre quasiment tout de suite après parce que il y a des gros problèmes entre en fait le roi qui a pas beaucoup d'autorité et tous les vassaux en fait qui eux par contre ont parfois beaucoup de pouvoir et comme ils sont éloignés, bah, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et
D'accord.
donc ce qui va se passer, c'est que pour essayer de garder les territoires, il va les donner soit à des hommes de confiance, soit dans certaines obligations. Par exemple, il donne la Bourgogne à son frère, Robert Ier, qui voulait le destituer pour devenir roi en fait. Mais c'est plus intéressant d'avoir la Bourgogne que le roi, donc il le donne en apanage.
D'accord.
Ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça et c'est un peu compliqué en fait à tout replacer parce
Oui,
qu'il y a
je vois
beaucoup
qu'il y a une
de
histoire écrite.
calculs.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ça va être vraiment tout le début des Capétiens, ça va être réussir à asseoir son autorité en fait, parce qu'ils n'ont pas assez pour survivre en fait. Personne ne veut vraiment les aider, donc il faut arriver à aller sur la construction d'un État solide qui repose sur le roi.
Wow. Et les
Ouais.
Capétiens ont participé
Ouais, c'est ça, beaucoup.
beaucoup à
Donc,
ça.
et particulièrement bah, Philippe Auguste. Donc, ça arrive quand même bien plus tard parce qu'on est déjà en 1180 quand il arrive sur le trône.
Ouais.
Et lui, il arrive sur un moment très compliqué parce qu'on a la France, tout l'Est en fait, qui a été pris par l'Angleterre. C'est pas vraiment comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a. Donc. En 1060 à peu près, on a l'Angleterre qui est vraiment, enfin, l'Angleterre et la Normandie française qui sont vraiment dans une grosse impasse parce qu'en fait, le roi anglais, on a changé de dynastie. En fait, avant c'était des rois donc normands, donc vikings, Knut le Grand, qui avaient pris possession de l'Angleterre. Donc c'était les rois scandinaves et tout ce qu'on peut connaître dessus, je les connais pas très bien.
Oui, d'accord.
Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à un moment il y a eu un changement et on est passé sur des rois donc anglais avec Édouard le Confesseur. Mais ça n'a pas duré très longtemps et en fait il y a eu un problème, c'est que il y avait possiblement un Normand qui pouvait prendre le pouvoir. Donc Guillaume le Bâtard ou Guillaume le Conquérant, qui est très connu. Et en fait il arrive à prendre la Normandie. Et donc là, ça met la Normandie, à prendre l'Angleterre, pardon. Là, ça met un gros problème parce qu'on a un duc de Normandie qui est vassal du roi de France, qui devient roi d'Angleterre. Donc il a les deux titres. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un roi peut être vassal d'un autre roi? Eh ben, en fait, ça se fait pas vraiment. En fait, il est vassal que sous le titre de duc, mais en tant que roi anglais, il fait ce qu'il veut. Donc là-dessus, ça va amener des gros soucis, et particulièrement un peu plus tard, quand on va avoir donc Henri II Plantagenet, qui en succession, au fur et à mesure, il est roi et il arrive en fait à se marier à Aliénor d'Aquitaine, une femme très connue. Et
Oui.
donc avec ça, en fait, il obtient bah, la moitié de la France, du territoire actuel qu'on connaît. Donc il a le royaume d'Angleterre et la moitié de la France. Et
D'accord.
avec ça, il est censé être bah, vassal du roi de France qui a à peine,
La moitié
ouais,
de
juste Paris-Orléans quoi. Donc
Paris, d'accord.
compliqué. Et donc là-dessus, on va avoir beaucoup de jeux d'alliance en fait parce que quand Henri va mourir, ses deux fils donc Cœur de Lion et Jean Santerre vont très mal s'embrouiller. Et donc ça va être un peu compliqué pour eux. Et finalement, Philippe Auguste, il va réussir à reprendre la Normandie, à affaiblir la Bretagne et la Flandre, qui étaient très fortes et très riches à l'époque. Et finalement, il va avoir après bah, la confiance des autres vassaux et réussir à être un roi plutôt bien posé, ce qui fait qu'il aura plus besoin de, il va dire, pas besoin de sacrer mes fils, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est sûr que ça va suivre dans tous les cas. Enfin, il a
D'accord.
suffisamment d'autorité.
Alors, tu parlais de Guillaume le Conquérant. Alors, je pense que c'est un peu anachronique, mais moi j'en connais un, c'était peut-être moins 300 avant Jésus-Christ.
Ouais, peut-être. Alors, je le connais pas parce que c'est pas la
C'est pas
période
ton
que
délire,
j'étudie
ah
trop.
ouais.
Ouais,
Mais tu
je
sais,
le connais beaucoup
Guillaume,
moins.
Guillaume, quoi.
Ouais, bah, qui
Il y a eu
prend la
plein de
moitié de
films sur
l'Europe,
lui,
quoi.
quoi.
Oui.
Mais toi, le tien, non, il prend l'Europe, mais lui.
Non, bah, il prend l'Europe. En fait, c'est juste un Normand,
Un Normand,
un
c'est pas le
Normand,
même,
ouais,
d'accord.
de la noblesse, en fait,
Ouais.
normande, qui va prendre l'Angleterre et qui va, bah, en fait, mettre sa dynastie sur le trône anglais jusqu'en 1300 et quelques, en fait. Même un peu plus en fait, parce que 1500, ouais, je pense. Et
Bon,
après, on va aller sur d'autres dynasties anglaises, les Stuarts, tout ça qu'on connaît beaucoup
Oui,
mieux.
ouais, et j'ai entendu parler. Mais après, il y a Philippe le Bel, tu me parlais,
Ouais, alors ça,
en
c'est un peu plus
off.
tard. Ouais, ça, c'est un
Ah,
peu
tu veux
plus
peut-être
tard.
en parler plus tard, hein?
Bon, on peut continuer là-dessus. Hein. Donc, c'est plus tard après Philippe Auguste. Donc, là, avec Philippe le Bel, on attaque plutôt à 1300. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, il arrive sur la fin des Capétiens. Parce que juste avant, on parle de miracle capétien, en fait, pour désigner tout le début en fait, de leur règne, les 200 premiers ans. Parce qu'en fait, à chaque fois que le roi meurt, il y a tout le temps le fils qui est prêt à prendre, qui est majeur, qui est prêt à devenir roi, ouais, c'est ça. Et qui est apprécié aussi, ouais, c'est ça. Donc ça arrive, on parle de miracle capétien parce qu'on se dit, bah, il n'y a pas de fin en fait. Il y a tout le temps un fils en réserve, il y a tout le temps de quoi faire et d'arriver à prendre position dans le royaume. Et en fait, à partir de Philippe le Bel, bah, c'est un peu compliqué parce que déjà, il se retrouve à avoir une crise un peu de succession parce qu'il s'entend très mal avec son fils qui meurt aussi et il a que des filles. Donc compliqué, mais normalement les filles peuvent monter sur le roi, sur le trône à ce moment-là. On n'a pas encore de primauté masculine, c'est pas encore le cas, c'est pas encore dans la loi.
C'est bien, quoi.
Donc on se dit bon, ça devrait aller, sauf que les trois filles, ben il y a à chaque fois des problèmes.
Ouais.
La mère, elle est accusée d'avoir trompé son mari, donc bah pas terrible d'avoir ses filles. Les filles aussi, elles ont baigné a priori dans des histoires un peu bizarres. On connaît pas trop,
c'est
ça.
Louche.
Ouais, et surtout sexuellement, donc ça pose énormément de problèmes à l'époque où d'ailleurs la religion est très présente.
Oui.
Donc là-dessus, bah, on arrive sur la fin globale de leur de l'histoire des Capétiens, en fait, parce qu'une fois que le Bel meurt, on va essayer de trouver un de ses frères. Donc il y a quatre frères en tout, donc ça fait beaucoup. Son frère prend le pouvoir, il reste sur le trône 2 ans, il meurt. On en a un autre qui est assez jeune, qui est assez fort, on se dit, il va tenir. Il meurt aussi au bout de 2-3 ans. Et le dernier meurt en 28 aussi. Donc là, on se retrouve sur une autre crise de succession. Et on va aller sur Philippe de Valois, qui devient roi et maître les Valois. Donc c'est une branche éloignée, mais cousine. Donc on reste dans la même famille. Donc globalement, bon, ça va. Et après, on va aller sur tout ce qui est guerre de 100 ans plus tard.
Oui, qui a duré 7 ans.
Beaucoup plus.
Ah bon?
La guerre de 100 ans, alors c'est un peu compliqué, mais donc elle commence en 1336. La guerre de 100 ans, elle commence en 1336 en fait, parce qu'on a Édouard III donc, qui est roi d'Angleterre et donc de l'Aquitaine française, Normandie, tout ça, de l'héritage plantagenêt en fait. Et donc, bah, il dit, bah, moi, je revendique quand même la couronne parce qu'en fait, ma mère, c'était la sœur de Philippe le Bel. Encore, hein, donc c'est très compliqué. Mais on dit, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un peu, on dit, bah, c'est une femme, ça passe pas trop, en fait.
Ouais, c'est ça,
c'est surtout parce qu'elle est anglaise, en fait. C'est pas encore la loi, mais c'est trouver une excuse en plus. Mais
c'est
bon, c'est pas vraiment pour ça qu'on les refuse. C'est juste, bah, on veut pas d'anglais sur le trône de France.
D'accord.
Et donc, ça, donc, ça enchaîne sur toute la guerre de 100 ans.
Oui,
globalement, quand on regarde, bon. Il y a un peu trop d'ambition de la part d'Édouard III quand même, parce qu'il y a des choses qui passent pas, mais il a une certaine légitimité au trône de France,
ouais.
Dans tous les cas, c'est sûr qu'il est de la famille.
Ouais.
Et donc la guerre de 100 ans, elle dure de 36 jusqu'à 1450 et quelques, en fait.
Ouais.
Et sauf que c'est même pas vraiment la vraie fin, ça va être globalement ce qu'on dit pour les études, en fait, pour que ce soit assez simplifié, mais il n'y a pas de traité de paix en 1450, en fait. Il n'y a jamais eu de traité de paix pour la guerre de 100 ans.
D'accord.
Donc,
on
en fait...
Encore en guerre.
Pas vraiment, parce qu'en fait, comme on a eu d'autres traités de paix entre-temps, on peut dire que bon, c'est fini en soi. Mais à partir de 1450, il n'y a plus vraiment de conflits armés.
D'accord.
Quelques conflits navals encore, donc sur les côtes anglaises et tout, jusqu'en 80 quand même. Donc bon, elle dure beaucoup plus de 100 ans. Elle dure 150, 160 ans globalement. Donc pour retourner sur l'Orient et donc moi, ce que je connais un peu mieux, les croisades. Ce qui est compliqué, c'est que les croisades, elles commencent... la première, elle est en 1085. Et elle est déclenchée par le pape Urbain II. En fait, c'est une réaction parce que Jérusalem a été pris par les Turcs en 1070. Et donc, en une vingtaine d'années, on a vu que ça collait pas du tout. Les chrétiens d'Orient, ils se font totalement décimer. Constantinople et aux abois. Et personne ne va les aider réellement parce que c'est loin. Donc le pape Urbain II dit « c'est pas possible, il faut aller les aider ». Et les croisades, c'est aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup d'impact de la croisade sur la politique française, parce que ça oblige tous les nobles croyants, pour dire on est bien croyants et on veut que l'Église nous aide aussi sur notre territoire, à dire on va aller aider, on va y aller, on va prendre les armes pour aller là-bas. Et là, c'est très intéressant de voir, il y a un parallèle, parce que normalement les chrétiens sont, on ne verse pas le sang, enfin c'est ne pas tuer, c'est quand même un des préceptes majeurs.
Oui,
et là, on appelle à la croisade, aux chevaliers, pour aller tuer les Turcs, pour reprendre Jérusalem.
Ouais.
Donc c'est très intéressant de se voir ça. On peut aussi faire un parallèle avec la paix de Dieu qui est instaurée dans les mêmes années. C'est pour dire, bah, en fait, il y a trop de conflits intestinaux en France entre les vassaux. Donc, Dieu dit pas de guerre, on arrête de se battre. Bon, ça marche pas vraiment, c'est un peu compliqué à mettre en place parce que bah, si on veut vraiment, si le seigneur se fait attaquer par un autre vassal, il va réagir quand même, quoi. Même si c'est la paix de Dieu, bah non, en fait.
Oui, c'est ça.
Et les croisades, donc, il y en a 8 entre 1095 et 1270. La dernière, c'est avec Louis IX, donc Saint-Louis.
Oui.
Et donc, c'est vachement intéressant de voir, il y en a beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ça marche jamais vraiment, quoi. En fait, on en fait une, on arrive à reprendre Jérusalem. Mais on reste, personne ne reste là-bas en fait. On a des soldats qui restent un peu là-bas, mais pas suffisamment en fait pour résister à l'invasion turque, ottoman. Enfin, et c'est impossible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein, il y a plusieurs croisades. Je connais pas toutes les dates, malheureusement. Et donc, c'est un peu compliqué d'arriver à vraiment les situer parce qu'il y en a qui durent très peu longtemps. On en a une qui est lancée. Alors, je crois que c'est la 5e ou la 4e qui est lancée par l'empereur Barberousse, donc empereur du Saint-Empire germanique. Il y part. Et en fait, en chemin, ils se noient. Mmh. Et donc, fin de la croisade. Alors, ouais. ils sont pas du tout allés en Orient, quoi. En fait, ils y sont pas allés, donc c'est un peu compliqué.
Mais c'est quand même la 4e croisade.
Ouais, c'est ça. Elle est quand même comptée parce que bah, la croisade est finie. Elle a été lancée.
Ouais, puis,
il y a des soldats qui ont rejoint Barberousse pour y aller, mais ça n'a pas abouti du tout, quoi.
Donc, mais c'était les soldats juste allemands ou tous les soldats de l'Europe?
Bah, globalement, c'était le pape qui appelait à y aller.
Ah, le pape.
Donc, c'est un peu ceux qui voulaient y aller. Là, c'était juste qu'il était dirigé par Barberousse, très croyant, qui disait, bon, bah. J'y vais, et comme c'est l'homme le plus éminent militairement et politiquement qui y va, c'est lui qui dirige la croisade, en simplifiant un peu, quoi.
Oui.
Mais oui, en soi, tout le monde pouvait venir. Par exemple, il y a une autre croisade en 1207, donc là, en France, c'est le conflit Philippe II Auguste avec Cœur de Lion et Jean sans Terre, donc les deux vont décider d'y aller, Philippe Auguste comme Cœur de Lion. Et donc c'est un peu compliqué parce qu'à ce moment-là ils sont en guerre en fait, en France et Français et Angleterre sont en guerre. Ouais, ça, bah ils sont appelés à y aller, ils sont tous les deux croyants, donc ils vont y aller, ils sont un peu obligés. Donc c'est un peu la paix, c'est une trêve en fait entre les deux pays en attendant que la croisade finisse. Et là c'est un peu compliqué parce qu'on voit que chacun a ses intérêts. Cœur de Lion, très très croyant, il va y rester tout le long. Philippe Auguste, il a pas très envie, il préfère s'occuper des affaires du royaume, donc il y va. Il fait quelques trucs et il dit bah je rentre. Donc il abandonne un peu la croisade. Ouais, donc c'est un peu compliqué. Les croisades, quand on regarde, bah c'est très compliqué. Et donc à ce moment-là, on a Guillaume, enfin Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion, voilà, je cherchais son but tout à l'heure, je l'avais pas, qui va affronter par exemple Saladin, donc vizir là-bas, très fort, figure très très connue de l'Empire arabe, et c'est très très violent à ce moment-là.
Et là, il y a un vainqueur ou pas?
Les
Anglais ou les
à ce moment-là, c'est un peu étonnant parce que justement, c'est Richard qui gagne.
Ah.
C'est pour ça que c'est alors que bah, Saladin, donc vizir, il a détruit toutes les forces depuis 30-40 ans. En fait, il règne vraiment quasiment en maître.
Quoi.
Ouais, sur l'Empire arabe, il est vraiment en maître. Quoi. C'est vraiment un gros stratège avec une grosse armée très appréciée par ses sujets globalement parce que très dirigé sur toutes les recherches scientifiques de son époque, mais aussi très très croyant. Donc bah, il arrive à vraiment avoir une place éminente dans son royaume.
Vizir.
Ouais, c'est ça. Il arrive même à prendre une partie de l'Égypte. Enfin, ça va. Son royaume, il s'étend vraiment beaucoup. Et il est un peu stoppé par Richard, justement, Cœur de Lion à ce moment-là, ce qui est intéressant de voir.
Okay. Donc c'était super, cette chronique était réalisée avec
Baptiste Paul Blanc.
Et vraiment, moi je suis assez sûr, enfin, c'est un étudiant en licence.
En deuxième année de licence, ouais. Là je vais passer en troisième année quand même, mais bon.
Ah ouais, mais quand même je trouve que c'est pas mal, hein. Il y a du répondant.
Merci.
Le marché. Abordé dans le film analysé en première partie de l'émission, et la création de l'État français, vu avec Baptiste Paul Blanc, étudiant en histoire au XIe siècle, sont, à mon avis, reliés. L'histoire de la présence géographique, qu'on a pu le voir avec Baptiste à l'instant, ne se résume pas par et dans les répétitions qu'une machine peut proposer à l'entité humaine avec un grand H. Construire, créer n'est pas une évidence, mais plutôt des alliances, des compromis. Oui, l'histoire géographique réside dans la création, dans la construction. Et je redis, pas dans la révolution. Enfin, révolution naturelle, c'est totalement différent. En même temps, oui, ça nous permet peut-être... Mais les cycles ne répondent à aucun instant, à aucun moment, à ce genre de révolution qu'on a pu voir en première partie de l'émission.
La barge russe. Tous les jours, 14h05, avec Johnny Chivbeck. The Russian Fortune. Le mercredi soir, par quinzaine, à 21h30, avec Helmut Schwartz. Le professeur Schmilbli, correspondant régulier, expert de cinéma, et de la vie de Friedrich Nietzsche. Jean Nine, secrétaire des affaires
de communication profonde,
Helmut et Johnny.
Oui, allô?
Ah. Quand j'ai parlé des croisades, j'avais parlé d'une où il y avait eu Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste. Et en fait, alors, j'ai un peu compris parce que c'est un moment où il y en a plusieurs en ligne, il y en a deux qui se suivent en fait. Il y en a une en 1889 qui se suit en 1893.
À propos des croisades.
Je voulais parler.
À propos des croisades.
Ouais,
c'est, ouais, ça, c'est ça, d'accord.
Il y en a une qui est en 1189 qui se suit en 1892 et il y en a une deuxième, enfin une troisième, une quatrième. Mmh.
Ah.
Ce qu'il faut que j'ai précisé, c'est juste qu'en 1889 et 1892, c'est Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste, accompagnés de Barberousse, qui vont essayer de reprendre Jérusalem qui est tombée aux mains de vizir Saladin.
Oui.
Barberousse se noie en cours de route, et c'est un peu compliqué entre Richard et Philippe, qui Philippe abandonne la croisade, Richard se retrouve un peu tout seul,
D'accord.
Il va presque reprendre Jérusalem. Alors que la croisade de 1202, en fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a changé de pape entre-temps, parce qu'il est mort, et Innocent III appelle à aller reprendre Jérusalem, parce qu'on n'a pas réussi avant, et ça se fait pas vraiment, parce qu'il y a un problème avec les croisés, qui vont finalement s'emparer de Constantinople, et qui vont pas du tout aller vers Jérusalem. Donc on voit aussi que même la religion a du mal à...
Ah ouais, ça c'est un point très intéressant, là. Ils ont préféré prendre Constantinople, qui était un peu le centre du monde à l'époque. Ouais, ouais. Ah oui, la religion était plus forte à Constantinople.
Ah bah alors c'est vrai que c'est aussi compliqué parce qu'en fait en 1050, il y a eu un grand schisme en Europe. En fait, c'est que Rome et Constantinople décident de ne plus être la même religion en soi, donc enfin ne plus avoir le même poste.
Mm-hmm.
Donc, c'est surtout Constantinople qui renie l'autorité du pape à Rome et qui dit on est aussi le centre, on est plus proche de Jérusalem.
Ouais.
Donc en fait, il y a un schisme entre les deux, quoi.
Okay.
Il y a les chrétiens d'Orient et d'Occident, quoi. C'est plus exactement les mêmes. Même si dans les faits, comme il reste la même religion, c'est pour ça qu'il y a les croisades, il faut aller aider les chrétiens d'Orient.
Ok. Bah, en tout cas, tu fais bien de me rappeler pour nous dire ça. Enfin, je l'avais remarqué, mais bon, je me suis dit, je vais pas. Non, je plaisante. Et là, tu parles des chrétiens d'Orient, et moi, ça me fait penser à une BD que je relis pour la énième fois qui s'appelle. La phalange noire de Anki Bilal et Christin, et justement les méchants entre guillemets sont des chrétiens
des chrétiens d'Orient.
Ouais, voilà, c'est ça, des chrétiens d'Orient.
Temps, c'est vrai que
l'ordre attends, ça s'appelle l'ordre de la phalange noire et c'est de 79, mais elle est géniale cette BD, je l'ai lu. Ouais. Oui, donc qu'est-ce que tu veux rajouter? Oui, pas de problème, ils l'ont à la médiathèque. Ok, bon je te remercie beaucoup de ton appel.
Ouais.
Jet FM, la radio qui tue.